Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre sur le podcast Il était quelquefois. Dans le chapitre 66 de Un parfum glacé, vous avez eu un des chapitres qui, je crois, me touche le plus. C'est le chapitre de la mort d'Armand. Et Armand, comme Clara, font partie des personnages que je préfère, je crois, de tout le roman. Il y en a qu'on adore détester, forcément ils sont là pour qu'on ne les aime pas. Et puis, il y a des personnages auxquels on s'attache parce qu'on trouve des ressemblances avec nous, ou je sais pas, ils ont un truc attachant. Et Clara et Armand, pour moi, ils ont vraiment cet aspect-là. Et leurs morts, pour moi, sont tragiques. Celle de Clara est tellement soudaine que... Voilà, on peut vraiment que s'y faire, en fait, on n'a pas le choix. Mais celle d'Armand, elle est déchirante, voilà. Il a très bien compris que Valentine, si elle était partie, c'était pour ne jamais revenir. Et lui, en fait, sans elle, eh bien, il ne peut pas, il ne peut plus. C'est plus fort que lui, hein, ça ne se contrôle pas. Donc il va mourir de chagrin. Et avant de partir, Lilou va lui faire une promesse. Horrible, hein, mais elle va le tenir, cette promesse. C'est de le laisser reposer dans son endroit à lui, qu'elle avait pu voir une ou deux fois, pas plus, pour qu'il soit toujours proche d'un endroit qu'il aime à tout jamais. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 67, Alsace, 2005. Ne pouvant plus se contenir, Nicolas se leva d'un bond du fauteuil où il était assis et se mit à marcher de long en large dans la vaste chambre. Abasourdi, il tentait de remettre ses idées en place. « Je ne peux pas le croire. Je ne peux tout simplement pas le croire. Mon oncle Armand, mon propre père, s'est donné la mort tout seul au fond des bois avec votre complicité. Vous l'avez enterré comme un chien ? Non, même certains chiens ont droit à plus d'égards que ça. Pourquoi ? Comment avez-vous pu faire ça ? Vous l'avez aimé tout de même, au moins un peu. » Même si vous étiez omnubilé par Antoine, vous avez bien ressenti quelque chose pour Armand. » Émilie, assise bien droite au bord de son fauteuil, gardait la tête obstinément fixée sur son cahier rouge qu'elle tenait des deux mains, comme une bouée de sauvetage. « Je ne pouvais pas faire autrement, » fit-elle d'une voix sourde. « J'avais promis à Armand. » En entendant ces mots, Nicolas se figea. « Effectivement, » se dit-il, « on n'a pas le droit de ne pas honorer une promesse, même une promesse de cette importance. » Surtout une promesse de cette importance. « Excusez-moi, » dit-il en s'arrêtant devant le magnifique secrétaire en bois. « Oui, je comprends. Vous n'avez pas pu faire autrement. Je comprends, » répéta-t-il comme pour se persuader. « Nicolas, » fit Émilie sur un ton implorant qu'il ne lui avait jamais entendu. « Maintenant que tu as entendu toute mon histoire, je te demanderai un service, comme je te l'ai déjà dit. » « Quel service ?» Je sais qu'il existe, en Suisse, un organisme d'aide au suicide assisté. Je sais que je n'en ai plus pour très longtemps, mais je ne sais pas exactement pour combien de temps. Ce que je ne veux pas, c'est devenir un légume, sans possibilité de mettre fin à mes jours si je suis victime d'un AVC, ou pire, si je deviens complètement gâteuse, comme certains et certaines dans ce bâtiment, à proférer des insanités ou des paroles sans queue ni tête, baver, hurler ou pire. Je ne demande pas grand-chose, juste partir dignement quand je l'aurai décidé. Et je voudrais que ce soit toi qui me tienne la main dans mes derniers instants. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Dehors, le ciel était devenu sombre, le tonnerre roulait déjà. « Pourquoi ne demandez-vous pas à votre fille Eva de faire ça pour vous ? Vous pensez qu'elle refuserait ?» Émilie eut un rire sans joie et répondit « Eva. Eva est ma fille, oui, mais c'est aussi et surtout la fille de son père. Et nous n'avions pas une vie de couple ou de famille des plus aimantes. Elle ne m'accompagnerait jamais. » Nicolas revint s'asseoir dans le fauteuil en face de la vieille dame et demanda « Qui donc est le père d'Eva, Émilie ? Vous ne me l'avez pas dit et je ne pensais pas que ça avait un rapport avec l'histoire de votre jeunesse Auvergne, mais vu les révélations auxquelles j'ai eu droit, je commence à en douter. » Comme elle continuait de le fixer sans répondre, il demanda « Ça a un rapport, Émilie, n'est-ce pas ?»« Oui, ça a un rapport. Le père d'Eva, c'est Basile. » Nicolas ne comprit pas tout de suite. « Basile ? Quel Basile ?» « Oh, vous voulez dire Basile ? Le domestique qui travaillait avec vous à l'époque Auvergne ? Celui-là, oui. Mais je ne comprends pas. Pourquoi l'avez-vous épousé ? Je croyais que vous le détestiez. » Émilie Muller parut mal à l'aise tout à coup. « Non, je ne peux pas dire que je le détestais. Comprends-moi, j'étais amoureuse d'Antoine, complètement, irrévocablement, ai-je envie de dire. C'est pour cette raison que je ne voulais rien savoir de Basile. » Mais après la mort d'Armand, je me suis retrouvée confrontée à un choix cruel, Soit je restais auvergne avec toi, Nicolas, soit je partais définitivement. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'après le départ d'Armand, la bulle de rire fut complètement détruite. Une sorte de marasme planait sur la maison, et ce marasme était tel que même toi, avec tes rires et ta spontanéité, tu n'as pas réussi à le percer. Sans prévenir, mais je l'avais vu venir un jour alors que Joe était rentré à Genève, après avoir accepté un poste de professeur dans un pensionnat, presque résigné concernant le départ de sa sœur, Antoine et Clara décidèrent de rentrer en Suisse. Je crois que l'amour entre Antoine et Joe s'était tari. Je ne peux pas l'affirmer bien sûr, mais c'était mon ressenti à cette époque-là. Son retour en Suisse ne m'a donc pas surprise. Nicolas garda pour lui ce qu'il savait de Joe. Émilie ne semblait pas savoir qu'il avait été son professeur, ainsi que l'ami de la famille au décès de sa mère. Il avait peut-être disparu un temps, mais avait su revenir auprès de son ami, son âme sœur, au bon moment. Émilie continua. L'ambiance était morne, et le départ soudain d'Armand, même s'il avait ébranlé le couple Page, ces derniers finirent par deviner ce qui était arrivé. Je pense. Personne ne l'a clairement dit, mais je voyais dans leurs yeux qu'ils savaient où ils se trouvaient. Pas physiquement, bien sûr. Clara et Antoine n'étaient pas censés connaître le lieu secret d'Armand. Mais sa lettre, si elle avait pu semer le doute durant quelques jours, au point où Clara voulut prendre la voiture pour le retrouver et le suivre dans son aventure, finit par devenir une véritable lettre d'adieu. Définitif. Ils étaient abattus, malgré le bonheur que tu dégageais, car finalement ce qu'ils avaient gagné avec toi leur avait coûté très cher. Les Vernes commençaient à leur rappeler de mauvais souvenirs. Plus que leur village mesquin ? Peut-être. D'une douleur différente en tout cas. Je ne pouvais que faire des suppositions sur ce qu'ils ressentaient, car ces derniers instants au Verne, il n'y avait plus aucun partage entre nous. Nous étions des étrangers, des gens qui ne faisaient que vivre maladroitement sous le même toit. Mais tu dois te demander, pourquoi j'ai épousé Basile, alors que je l'ai méprisé durant toute ma vie en France ? Nicolas hocha la tête. Si je te dis, parce qu'il me l'a demandé, ça te semblera un peu léger, non ? Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. À part toi, plus rien ne me retenait au Verne. Et comme tu allais partir aussi, et que Clara m'a bien fait comprendre que dans une maison aussi humble et petite que celle qu'ils allaient posséder en Suisse, ils n'auraient pas besoin d'aide, j'ai compris que cette aventure se terminait là, pour moi aussi. Te dire le chagrin que j'ai ressenti en te quittant, ce n'est pas possible. Basile et moi, nous sommes mariés quelques mois plus tard, en tout petit comité. Les invités, des amis de Basile ainsi que sa sœur et son mari, étaient exactement au nombre de 9. Peux-tu imaginer un mariage aussi minable ? Moi qui avais imaginé, avec Antoine. Enfin, peu importe. Nous sommes partis pour Dijon, et durant quelques mois, puis années, nous avons bien vécu, avec mes économies et l'héritage de mon père. Puis, j'ai commencé à les réinvestir, à gauche à droite. Au départ, je travaillais dans l'ombre de Basile, car en tant que femme, je n'avais pas voix au chapitre concernant les affaires immobilières, pour lesquelles je me passionnais. Mais je compris rapidement, et lui aussi, que j'étais bien plus douée là-dedans que lui. Donc, nous avons fait équipe. Il gérait les relations, je gérais les contrats. Face au monde, je jouais mon rôle de femme au foyer, et lui, celui de l'homme qui ramène de bons salaires à la maison. Nos investissements, nos rénovations et les prix auxquels nous les revendions nous ont rapidement permis de vivre plus qu'au-dessus de nos moyens. Bref, professionnellement, nous formions un duo de choc. Malheureusement, il n'en allait pas de même de notre vie privée. Pendant plusieurs mois, il ne se passa rien entre nous. J'étais à la fois soulagée et tendue car je me disais bien que cela ne pourrait pas durer. Effectivement, il devint pressant, puis menaçant. Alors bien sûr, je finis par céder. Une sorte de routine s'installa ici aussi, sans passion, sans sentiment. Pendant des années, nous vécûmes ainsi, nous enrichissant et nous éloignant de plus en plus. C'était un long fleuve, pas particulièrement tranquille, mais auquel je m'étais habituée. Je supportais de mieux en mieux Basile, puisqu'il passait la plupart de ses nuits dans son bar, que nous avions racheté et qui était devenu son terrain de jeu, et une grande partie de la journée à dormir, pendant que je travaillais dans mon bureau. Sans grande difficulté, je parvenais à l'oublier pendant plusieurs heures. Nous étions non pas heureux, du moins pas moi, mais apaisés. Nous vivions une sorte de statu quo, et je pensais qu'il allait en être ainsi pour toujours. Comme je ne tombais pas enceinte, j'en déduisis que j'étais stérile. Puis, après des années d'infructuosité, Eva vint au monde. Je m'étais faite à l'idée de ne jamais donner la vie, et j'en étais très satisfaite. C'est pourquoi, quand je découvris que j'attendais un bébé, il me sembla que le sort s'acharnait contre moi, que le ciel me tombait une fois de plus sur la tête. Basile devint littéralement fou de joie à la vue de sa petite fille et passa de plus en plus de temps à la maison. Le problème, c'est que j'avais depuis plusieurs années pris l'habitude de vivre plus ou moins seule dans notre grand appartement et que je me sentais tout à coup envahie par Basile et sa fille. Car oui, comme je te le disais, Eva était la fille de son père et non la mienne. Je ne parvenais tout simplement pas à ressentir pour elle ce que j'avais ressenti pour toi. Eva, cet enfant né de mes propres entrailles, me faisait l'effet d'une étrangère. Petite, elle me regardait avec timidité, du regard que les enfants portent à des inconnus, puis, en grandissant, cette timidité se mua en indifférence, et je finis par en prendre mon parti. Une fois adulte, et mère elle aussi, les choses n'allèrent pas en s'arrangeant. Elle tomba enceinte très jeune, et jamais elle n'eut confiance en moi pour l'aider avec son fils. Je n'en avais pas particulièrement envie, mais je restais sa mère, je ne l'aurais jamais laissé tomber. Nous ne nous aimions pas comme dans la plupart des familles, mais j'admirais sa pugnacité. Elle savait me tenir tête pour ses principes et rien que pour ça, je la respectais, de loin, toujours de loin. J'aurais dû être plus présente pour elle, plus à l'écoute de ses problèmes, plus attentive à sa vie, mais ma vie à moi ne m'avait pas appris à être mère, ni à donner de l'amour. Je ne savais tout simplement pas comment faire, n'ayant eu comme exemple depuis ma naissance que le mépris et la haine. Après la mort soudaine de son père et le stupide accident d'Eliott, son fils a tout juste 2 ans, qui bien sûr, selon elle, est totalement de ma faute, elle partit très vite de la maison. Voici un bien long discours, je sais, pour essayer de t'expliquer pourquoi Eva ne pourrait jamais m'accompagner dans mon dernier voyage. Je ne lui en veux pas, c'est ainsi. J'ai donc décidé et désiré que ça serait le seul enfant que j'ai réellement réussi à aimer, qui pourrait exaucer ce souhait. Nicolas resta silencieux. Une dernière chose le tracassait dans cette histoire. Si Eva, par manque d'amour maternel, ne pouvait accompagner sa mère en Suisse pour la soutenir dans son suicide assisté, pourquoi Émilie lui avait-elle confié la direction des Vernes ? Oh, ça, c'est assez simple, finalement. Bien qu'elle fût partie, je ne l'ai jamais perdue de vue. Un détective privé la suivait régulièrement et me faisait ses retours. Pas très glorieux. Ma fille était tombée sur plusieurs personnes qui avaient abusé de sa confiance. Elle était dans une situation compliquée quand je décidais de reprendre contact avec elle, car j'avais besoin de quelqu'un pour diriger l'hôtel que je venais de racheter. Les Vernes. Je me tenais toujours au courant de ce qui se passait avec cette demeure, et j'appris qu'elle était à nouveau à vendre, après avoir changé de propriétaire plusieurs fois et avoir été transformée en hôtel. Vu la situation de ma fille, je n'eus pas beaucoup de mal à la convaincre de venir y travailler. Elle accepta, à la condition expresse que je la laisserais libre d'agir à sa guise, sans jamais tenter de m'immiscer dans sa façon de gérer. Ma santé étant ce qu'elle était, j'avais été victime de plusieurs petites attaques et résidais déjà au home, je n'y vis aucun inconvénient, exigeant simplement en retour qu'elle conserve à cet établissement son nom d'origine, Les Vernes, ce qu'elle accepta de bonne grâce. C'était une façon de lui dire qu'elle comptait tout de même pour moi, et je crois que le fait d'accepter était sa façon de me répondre.